éclaire un endroit. Mais là, on n'est plus du tout dans les mêmes modes de réflexion. Ce que je vois quand même, c'est qu'on bombarde ces réacteurs. Il n'y a pas d'accident. Et ça, c'est peut-être une preuve aussi qu'en fait, on a tellement mis des... En fait, on les a conçus pour ça aussi. Et quand le patron de l'AIA dit « il faut arrêter », il est dans son rôle dans le nucléaire. Chaque tout petit événement est une catastrophe, en fait. Et ça, c'est très important de se rendre compte de ça. Donc, c'est qu'une agence de sécurité dans le monde nucléaire, elle doit crier au loup tout de suite et elle doit être en alerte. On m'a une fois posé la question par rapport à un article de presse du patron de l'agence de sécurité française qui un jour a dit « La question n'est pas de savoir s'il y aura un accident, la question est de savoir quand aura lieu cet accident. » Et en fait, moi, je trouve ça très très bien qu'un patron d'une agence de sécurité soit sur le qui-vive et ne dise pas à ses troupes en disant « Mais vous savez, il n'y a pas de souci. » Non, un patron d'une agence comme ça doit dire « L'accident, c'est demain. » Et on doit être prêt pour ça. Et donc cet esprit-là, et c'est la même chose dans des technologies dangereuses comme l'aviation, dans toute une série de techniques chimiques, etc. La sécurité, c'est quelque chose qui s'entretient jour après jour après jour. Et je crois que dans le nucléaire, ça restera toujours le prix du nucléaire. C'est de ne rien laisser passer.
Donc quelque part, ce que vous me dites là, c'est, au fond, vous ne dites pas que le nucléaire est une technologie sans danger. Il faut être conscient que c'est une technologie potentiellement dangereuse si elle n'est pas bien maîtrisée, pensée, contenue, etc. Et qu'au fond, la limitation du danger vient du fait qu'on considère justement et qu'on est tout le temps à l'esprit que c'est dangereux.
Exactement. C'est comme en aviation. Le nombre de décès liés à des accidents d'avion, si vous regardez les chiffres, n'a fait que décroître avec le temps et arrive aujourd'hui à un niveau qui est absolument incroyable. Hein. C'est des chiffres qui sont très 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 petits par rapport au nombre de kilomètres parcourus, infiniment inférieurs aux tués de la route. Et pourtant, d'abord on en parle dans la presse et on ne parle pas tous les jours des tués de la route, et c'est parce que dans l'aviation, on ne lésine jamais, chaque fois qu'il y a moyen d'ajouter un ingrédient de sécurité, on l'ajoute, on a des procédures qui sont parfois considérées comme trop lourdes pour remplacer des pièces bien avant qu'elles soient défectueuses, etc., etc. Mais c'est la même chose dans le nucléaire, plus on va avancer, plus ça va être comme ça, donc moins on aura ce risque-là.
Cet argument-là, il ne suffit pas à convaincre Luc Barbet pour qui l'exemple de Fukushima montre justement qu'il n'est pas possible de tout prévoir.
Si on avait dit avant la catastrophe à Fukushima, attention parce que ces centrales nucléaires, c'est géré par des gens qui ne connaissent pas le métier, tout le monde aurait crié, mais attends, vous êtes fous quoi. Les ingénieurs nucléaires, les chercheurs nucléaires, les experts, ce sont la meilleure du monde. Les Japonais, c'est pas comme... Allez, les Russes dans le temps de Tchernobyl, on peut avoir confiance. Ça aurait été certainement la réponse. Eh bien, moi, je vois que le Japon, qui est un des pays d'un point de vue technologique à la pointe, vraiment au top, ben, on a eu la catastrophe nucléaire, quoi. Et donc, avoir un tel incident ici en Belgique, je ne veux pas y penser.
Quant à Jean-Marc Jancovici, il reconnaît que, oui, le nucléaire, c'est dangereux, mais qu'il y a d'autres technologies dangereuses en matière d'énergie et d'industrie.
Ce qui m'a toujours étonné, c'est que cet accident, il n'est pas limité au nucléaire. Je vais prendre quelques autres exemples. Les barrages sont des installations qui, dans le monde, ont fait beaucoup plus de morts et déplacé beaucoup plus de monde que le nucléaire civil. Le barrage des Trois Gorges, quand il a été construit, a déplacé 1 million de personnes. Tchernobyl en a déplacé 250 000. Quand le barrage de Vajon-Longaronne a fait l'objet d'un accident, il y a eu un glissement de terrain dans le lac de retenue, en Italie, hein, au début des années 60. Il y a eu 2500 morts à l'aval, c'est-à-dire sous le barrage, hein, à cause de la vague de crue. Vous n'avez aucun accident, pas même Tchernobyl, qui instantanément ait fait autant de morts. Et le plus gros accident de l'industrie chimique, qui est Bhopal en Inde, a fait instantanément des milliers de morts. Et dans la durée, probablement beaucoup de décès prématurés aussi, etc. C'est mal évalué. Donc le nucléaire n'est pas particulièrement plus dangereux, c'est ça qu'il faut avoir en tête, qu'un certain nombre d'autres installations industrielles qu'on a l'habitude d'utiliser. Et la plus dangereuse d'entre elles, sans conteste, c'est le charbon. Le charbon tue chaque année l'équivalent de la moitié de Bruxelles.
Le problème en matière de nucléaire civil, c'est que même si le risque est infime, les conséquences d'un accident pourraient être tout à fait ingérables et dramatiques. Ceci dit, il est juste aussi de rappeler que les conséquences du réchauffement climatique seront, elles,
certainement destructrice et meurtrière. Toute la question est donc de savoir si on peut lutter efficacement contre le réchauffement de la planète en se passant totalement du nucléaire et des risques qu'il comporte. L'autre grosse ombre au tableau de la fission nucléaire, c'est évidemment la question des déchets.
On parle de déchets qui sont encore là dans 300 000 ans. 300 000 ans, c'est très difficile à s'imaginer. S'il y a 300 000 ans, on était dans la préhistoire, on avait construit des centrales nucléaires, on serait encore obligé de gérer les déchets ou avoir des problèmes avec ces déchets, quoi. Donc c'est énorme. Donc, et pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution, quoi.
Alors, est-ce que c'est vrai, ça, ce que dit Luc Barbet ? J'ai essayé de m'y retrouver un peu dans la galaxie des déchets nucléaires, et ce n'est pas toujours simple, puisque au niveau des produits de la fission, qui sont les déchets les plus radioactifs et les plus problématiques, on a en fait toutes sortes de matières radioactives différentes. La majorité est à faible activité radioactive. Seuls 5% sont à très haute activité. Mais, et c'est un très grand mais, ces seuls 5% émettent plus de 97% de la radioactivité de l'ensemble des déchets. Et parmi les matières concernées, certaines ont effectivement une durée de vie problématique de plusieurs centaines de milliers d'années, voire 1 million d'années pour certains. Ce problème, personne ne le nie. L'enjeu est de savoir alors comment gérer ces déchets de très très long terme. Et la thèse qui est privilégiée aujourd'hui pour la Belgique, c'est le stockage géologique profond. L'idée d'aller localiser les déchets à plusieurs centaines de mètres sous terre, dans des couches géologiques jugées assez étanches et stables. Le gouvernement fédéral vient d'ailleurs de prendre une décision de principe en ce sens. Et Thomas Pardoun, professeur à l'UC Louvain, nous explique comment ça fonctionne concrètement.
Les déchets mauvais, en fait, en gros, c'est le combustible usé. Hein. C'est l'uranium usé qui a donné une partie de son énergie dans la fission et qui, en faisant ça, a fissionné et a donné des éléments radioactifs et très radioactifs dans certains cas. Ce combustible, on le vitrifie, c'est-à-dire on le met dans une gangue de verre. Ensuite, cette gangue de verre, on la met dans un fût métallique qu'on remplit alors autour de ciment, qu'on remet dans un autre fût métallique, alors il y a différentes variantes, qu'on met alors à ce moment-là dans un caisson qu'on re-remplit de ciment, et donc on va se retrouver avec un peu une poupée russe, comme ça, avec toutes des enveloppes qui, elles, ont des spécificités différentes, qui vont tenir à la chaleur, parce que pendant quelques centaines d'années, il va faire très chaud hein, au niveau de ces déchets, et donc toutes ces barrières sont faites de façon à tenir des milliers d'années, suffisamment pour qu'il y ait déjà une réduction très significative de la radioactivité. Et ensuite, la barrière qui va alors jouer le rôle pour la dernière phase, c'est la barrière géologique. Et c'est pour ça qu'on choisit des sites d'enfouissement qui sont dans des matières au niveau géologique, des argiles particuliers ou des zones dans lesquelles on sait que la diffusion des éléments radioactifs qui vont se faire et qui éventuellement pourrait revenir jusqu'à la surface de la Terre, va être tellement lente que quand ces éléments vont arriver, ils ne seront plus radioactifs.
En Belgique, des tests sont déjà effectués depuis de nombreuses années dans de l'argile amole, dans un laboratoire situé à 225 mètres de profondeur. Mais cette idée de stocker les déchets à plusieurs centaines de mètres sous terre, dans une couche géologique qui doit elle-même en quelque sorte servir de barrière naturelle à la propagation des rayonnements ionisants, cette idée donc reste pour l'heure plutôt théorique. Aucun pays n'a encore été enfouir ses déchets de la sorte, sauf à titre expérimental. La Finlande, qui est la plus en pointe dans le dossier, a commencé à préparer son site d'enfouissement qui devrait accueillir ses premiers déchets en 2025. Et certaines questions restent posées. Faudra-t-il tout refermer une fois les déchets entreposés et en quelque sorte les oublier ? Ou bien faudra-t-il les monitorer, tout en sachant alors que l'on garde une sorte d'accès à ces déchets radioactifs, avec tous les risques que cela pose en matière, par exemple, de fabrication de bombes sales. Alors, ça peut paraître bizarre d'envisager cette hypothèse dans un pays aussi développé, pacifié que la Finlande, mais comme on parle d'échelle de temps bien supérieure à la durée de vie qu'ont jusqu'ici connue nos États et nos démocraties, eh bien cela pose de vraies questions.
entre parier sur la capacité de nos sociétés à gérer de tels déchets à si long terme et l'idée de les enfouir pour les oublier, mais du coup sans plus trop savoir ce qu'ils deviennent précisément. On touche à de cornéliens débats philosophiques, éthiques, qui interrogent notre rapport à la Terre et l'héritage que l'on va laisser aux générations futures. Ce qui est sûr, c'est que la somme des conséquences associées à l'usage de l'énergie nucléaire, que ce soit les risques, l'enjeu de la gestion des déchets à long terme, le coût du démantèlement des centrales en fin de vie, eh bien tout cela a fini par décourager progressivement le secteur privé d'investir. Et c'est d'ailleurs un argument souvent rappelé par les adversaires du nucléaire, dont Luc Barbet, qui est, je vous le rappelle, l'un des pères de la loi de sortie du nucléaire chez nous.
Le nucléaire, c'est par définition la prise de risque. C'est pas par hasard que le secteur privé ne veut pas couvrir le risque d'une centrale nucléaire. Donc, pour d'autres installations industrielles, les entreprises prennent une assurance chez une entreprise d'assurance. Dans le secteur nucléaire, le secteur d'assurance dit « Oui, pour des montants limités, mais pour le reste, le risque, c'est pour l'État, c'est pour le contribuable. » Donc, ça montre bien que la prise de risque par le secteur nucléaire, en fait, c'est impossible à dire.
Cet argument-là, Jean-Marc Jancovici ne le nie pas, mais il estime que ce qui décourage surtout le secteur privé, c'est le fait que construire une centrale nucléaire, c'est très cher au départ et ça ne se rentabilise que sur un temps très long. Raison pour laquelle, pour l'ingénieur français, le nucléaire ne peut être qu'une énergie d'État.
En fait, ce qui se passe quand vous construisez une centrale, c'est que l'opérateur de la centrale, il voit tout payer à la construction. Pour ça, il est obligé de trouver de l'argent soit auprès d'actionnaires, soit auprès de banquiers. Et derrière, il va rembourser cet argent aux actionnaires et aux banquiers. Enfin, il va rémunérer, on va dire, les actionnaires et les banquiers. Et en fonction du taux d'intérêt que ces actionnaires et les banquiers vont demander pour l'argent tant qu'il n'est pas restitué, le coût du mégawattheure va être extrêmement variable. Et là, il va falloir que je vous parle un peu chiffres. Si vous êtes dans un cadre dans lequel l'État garantit tout et l'État emprunte l'argent pour pas cher, donc mettons 2% au-dessus de l'inflation, eh bien le nucléaire va pas être cher. Si c'est des opérateurs privés qui doivent rémunérer actionnaires et banquiers à un taux moyen de rémunération de l'ordre de 10%, ce qui est un intermédiaire entre les capitaux privés qui cherchent plutôt à se rémunérer à 15-20, surtout dans des opérations risquées, et des banquiers qui vont plutôt se rémunérer à quelques pourcents, eh bien à ce moment, le nucléaire devient cher. Et là, pour prendre un exemple très concret, si je prends un réacteur qui coûte 10 milliards d'euros à construire, avec une durée de construction de 10 ans et une durée d'exploitation de 60, selon que vous trouvez de l'argent à 2% par an ou que vous trouvez de l'argent à 10% par an, la différence entre les deux, c'est 90 milliards de frais financiers supplémentaires. 90 milliards, 9 fois le coût de construction. Donc en fait, un nucléaire cher, c'est un nucléaire qui est développé dans un cadre privé, c'est très simple. Hein. Et un nucléaire pas cher, c'est un nucléaire qui est développé dans un cadre public. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça, même si le coût de construction est très élevé.
Et pour ce qui est des assurances, on sait que les États ont déjà dû se poser en garant. Certes, les exploitants peuvent encore assurer une partie des risques liés aux centrales nucléaires, mais avec un plafond au-delà duquel c'est l'État qui intervient. Sans cela, les assureurs refuseraient tout net d'assurer le risque nucléaire. Mais bon, ce n'est pas le seul cas de figure où l'on procède de la sorte. Les récentes inondations en Wallonie, que l'on peut, avec un haut degré de confiance, attribuer dans leur ampleur au réchauffement climatique, ont aussi exposé une situation similaire. Les assureurs sont intervenus, mais jusqu'à un certain montant plafonné. Après, c'est l'État, en l'occurrence ici la région Wallonne, qui a dû compenser. Reste une dernière question. Et si demain on avait un autre nucléaire, un nucléaire plus propre, un nucléaire pouvant mieux exploiter l'uranium? La question se pose immanquablement quand on parle de l'avenir de l'énergie nucléaire, notamment parce que prolonger la technologie actuelle ne va pas pouvoir se faire indéfiniment. Et ça, c'est Jean-Marc Jancovici qui l'explique. Attention, si vos cours de chimie sont loin, il va falloir s'accrocher un tout petit peu.
Si on veut que le nucléaire remplace une partie significative du charbon dans le monde, il n'y a pas assez d'uranium-235 pour que ça puisse durer des siècles. Donc ça veut dire que le nucléaire du futur, si on considère que c'est quelque chose qui doit durer aussi longtemps que le reste de la civilisation humaine, quelques siècles, quelques milliers d'années, doit impérativement être un nucléaire dit de quatrième génération, dans lequel on est capable d'exploiter la totalité de l'uranium qui se compose de deux isotopes. C'est un isotope, c'est une forme atomique dans laquelle il y a plus de neutrons que dans la forme de base, on va dire. Dans l'uranium, vous avez deux isotopes. Un où il y a 235 nucléons, 92 protons et puis le reste en neutrons, et une forme qui s'appelle 238. Vous avez toujours 92 protons, ça ne change pas les propriétés chimiques. Mais vous avez 3 neutrons de plus. Et ça change tout sur les propriétés atomiques. L'uranium-235, vous arrivez à le casser en deux, il s'appelle fissile. L'uranium-238, non. Il se trouve que l'uranium-235, c'est 0,7% de l'uranium total. Donc il n'y en a pas assez pour qu'on puisse mettre du nucléaire classique, actuel, j'ai envie de dire, partout pour remplacer le charbon, même si on pense, comme moi, que c'est pas si dangereux que ça et que c'est quelque chose qui est bien pratique. Donc il faut absolument passer au nucléaire de quatrième génération, et le vrai défi pour le nucléaire, il est là, en fait, parce que passer au nucléaire de quatrième génération, c'est quelque chose qu'on ne fera qu'avec un préavis de 20 à 30 ans.
Parce que les réacteurs capables d'exploiter l'uranium-238 ne sont pas les mêmes, on parle de surgénérateurs, et ils nécessitent une gestion plus complexe que les réacteurs que l'on connaît à l'heure actuelle.
C'est des réacteurs qui sont plus compliqués à piloter, parce que dans les réacteurs ordinaires, la fission est déclenchée par un seul neutron. Dans un surgénérateur, il faut deux neutrons. C'est boum boum. Il faut un premier neutron pour passer l'atome de ce qu'on appelle fertile à fissile. Fertile, c'est uranium-238. Hein. Et ensuite, il faut un deuxième neutron pour passer de fissile à fission. Contrôler une réaction dans laquelle vous avez besoin de deux neutrons, c'est plus compliqué que contrôler une réaction dans laquelle vous avez besoin d'un seul neutron.
Cette technologie, elle n'est pas inconnue pour autant. C'était celle des réacteurs expérimentaux Phénix et Superphénix, mis en service successivement en France dans les années 70 et les années 80. Mais entre-temps, ces deux réacteurs ont été mis à l'arrêt définitif, ce qui donne évidemment beaucoup de grains à moudre à ceux qui, comme Luc Barbet, ne croient pas à ce nucléaire quatrième génération.
Là-dessus, on a de nouveau dans, disons, le modus PowerPoint, des belles présentations, et on regarde ça, on se dit « Waouh, ce serait génial », mais ils oublient... Est-ce que c'est d'un point de vue business plan, d'un point de vue budget, est-ce que c'est payable? Et d'un point de vue industriel, à grande échelle, est-ce que c'est faisable? Et là, la question, ben, on l'a essayé, mais la question a été deux fois non. C'est un mythe. Je pense que la planète n'a pas besoin de mythes, mais de solutions concrètes, payables et durables.
À cela, Jean-Marc Jancovici répond lui que la technologie était mûre, qu'elle avait juste fait ses maladies de jeunesse, et qu'elle pourrait très bien être remobilisée avec de grandes chances de succès dans les décennies qui viennent. Personnellement, je ne suis pas en mesure de dire qui a raison et qui a tort. Plus je cherche sur le sujet, plus je trouve de conclusions contradictoires, et c'est à l'image de ce dossier où il est extrêmement difficile de se faire une opinion définitive. Si j'avais pu travailler plusieurs mois sur le sujet, j'aurais sans doute pu aller plus loin, mais pas sûr que j'aurais eu de quoi trancher ce dilemme fondamental que je vais essayer de résumer ici en quelques mots. Utiliser le nucléaire, c'est prendre des risques. Le risque d'accident est infime, mais il ne sera jamais nul. C'est vrai dans à peu près toutes les activités d'ailleurs, le risque zéro n'existe pas, sauf que les conséquences potentielles d'un accident nucléaire, elles, sont démesurément plus importantes que dans la plupart des activités industrielles. Utiliser le nucléaire, c'est aussi transmettre aux générations futures la charge de déchets radioactifs avec une durée de vie de plusieurs centaines de milliers d'années pour certains. Mais en même temps, nous sommes aussi à un point de bascule essentiel aujourd'hui sur l'enjeu climatique. Il ne reste que très peu de temps pour inverser la tendance de nos émissions de gaz à effet de serre. Le renouvelable se développe vite, certes, mais pas de quoi répondre à toute notre consommation d'énergie à brève échéance, qui plus est dans un cadre où notre consommation électrique va encore augmenter à cause de la transition qui va rapatrier vers l'électrique toute une série d'activités basées aujourd'hui sur le fossile. Alors peut-on se passer complètement du nucléaire ? Ou faut-il compter sur l'atome pour atténuer certains efforts de sobriété imposés par la transition? C'est une très complexe balance bénéfice-risque qui, au fond, regarde chaque citoyen, pas seulement quelques ingénieurs et décideurs. Parce que notre avenir énergétique, notre avenir climatique, notre avenir écologique et humain,
Il concerne chacun d'entre nous et qu'il n'y a malheureusement pas de réponse binaire à ces enjeux.